La première chose qui nous a fait réfléchir à la qualité de ce qu'on servait aux enfants dans les assiettes, c'est en 1998, lors de la crise de la vache folle, quand on nous a interdit de servir du bœuf dans les cantines, parce qu'on risquait de rendre gravement malade, parce que c'était une maladie létale, hein, les enfants, en leur donnant le bœuf. Et pourquoi ? Bah parce qu'on avait nourri des herbivores avec des farines animales. Donc, nous, ça nous a vraiment beaucoup fait réfléchir, ça nous a beaucoup interpellés.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Au moment où sort cet épisode, on s'apprête dans toutes les classes de France à décoller des murs quelques affiches gondolées par l'humidité. Dans les trousses des élèves et dans leurs cartables, les gommes, les effaceurs et les papiers buvards sont bien usés par des mois et des mois d'écriture et de rature. Les carnets de correspondance commencent à être sacrément écornés, leurs rebords rebiquent vers l'extérieur, un peu comme les feuilles de cette plante flétrie au fond près des casiers qui demande à être arrosée quelques dernières fois avant que l'instit ne se dévoue pour repartir avec et en prendre soin cet été. Partout en France, dans les écoles, une odeur de fin d'année se répand dans les couloirs, faite de lâcher prise, de nostalgie avec les camarades de classe à qui on dit au revoir et d'une grande hâte d'être en vacances pendant 2 mois, soit l'éternité quand on n'a même pas encore 2 décennies d'existence à son compteur. La fin de l'année, c'est aussi le moment de faire le bilan et de boucler un cycle. Et ça tombe bien parce que chez Nouvelles Écoutes, on avait commencé la saison de Bouffon par un thème au carrefour de réflexions politiques, économiques et sociétales. Un sujet sur lequel on tenait absolument à faire notre rentrée dernière parce qu'il concerne les mangeurs et mangeuses de demain, les cantines scolaires. Parce qu'au-delà des souvenirs de Macédoine et de friands au fromage, ce sujet implique de parler de responsabilité collective, d'éducation alimentaire, de fracture sociale, de politique publique, du marché de la restauration collective, d'enjeux écologiques qui sont les grands défis d'aujourd'hui. Dans l'épisode 148 de Bouffon, sorti en octobre dernier et intitulé « Remunicipalisons les cantines », je recevais donc Cécile Baron, parent d'élèves et membre du collectif des écoles de Marseille. Au micro de Bouffon, elle nous avait expliqué les problèmes des cantines scolaires aujourd'hui et le défi qu'il y a à remunicipaliser cette offre. Parce qu'il y a 30 ans, les établissements scolaires avaient encore des cuisiniers et des cuisinières. Autrement dit, des professionnels qui travaillaient tous les jours à élaborer des menus et cuisiner sur place. Mais par souci de rationalité économique, ces postes ont été massivement supprimés au profit de prestataires privés type Sodexo. Préparés dans des cuisines centrales, les repas sont désormais acheminés en liaison froide. Cela veut dire qu'ils sont généralement assemblés de 3 à 5 jours avant le jour où ils seront servis et sont souvent constitués de produits ultra transformés. Pour justifier ce modèle, un argument est régulièrement dégainé. On ne peut pas faire autrement. Par rationalité économique, à cause du réseau de distribution ou encore en raison des ressources. Pourtant, certaines villes en France parviennent à offrir à leurs élèves une alimentation la plus durable possible, une cuisine du jour, simple et savoureuse, préparée à partir d'ingrédients bio et locaux. Un autre modèle est donc tout à fait possible. Avec leur volonté politique de faire autrement, ces municipalités porteuses d'un changement ont pour la plupart été guidées, inspirées par un modèle, un véritable cas d'école qu'une autre restauration scolaire est possible, celle de Moinsartoux, dans les Alpes-Maritimes. Cette commune située entre Grasse et Cannes a décidé il y a déjà plus de 20 ans d'opérer une grande transition économique et écologique dans l'assiette. Désormais, Moinsartoux montre qu'il est possible non seulement de remettre des cuisiniers et cuisinières dans les cantines et proposer une alimentation 100% bio aux élèves, mais aussi de le faire en baissant le prix global de la note. On doit ce grand projet en perpétuel perfectionnement à Gilles Perrol, adjoint au maire de Moinsartoux pour l'enfance, l'éducation et l'alimentation et instituteur de carrière. Au micro de Bouffon, ce chantre de l'alimentation durable nous explique que réellement changer le contenu des assiettes de cantine suppose également de remonter au champ et donc aux liens qu'entretiennent les pouvoirs locaux avec leurs surfaces agricoles. Pour commencer, j'ai d'abord demandé à Gilles Perrol de me parler de ses souvenirs de cantine.
C'est marrant parce que c'est ce que disent beaucoup de gens, on me revient à l'image de betterave, de jus de raisin et de pas grand-chose d'autre. En fait, on peut pas dire que j'ai des souvenirs marquants de la cantine de l'époque.
Alors justement, donc parlez-nous de Montsartou. Vous incarnez aujourd'hui en France la preuve qu'une restauration scolaire 100% bio et savoureuse, donc cette restauration scolaire-là heureuse, est possible. Comment ça se passe exactement donc à Montsartou?
Alors oui, à Montsartou, on a cet objectif. Le premier objectif qu'on a sur notre cantine, c'est de faire une cuisine goûteuse. Je pense que c'est important que les villes, les collectivités se fixent cet objectif, donc goûteuse et respectueuse de la santé et de l'environnement. Voilà un petit peu la colonne vertébrale de notre projet. Et donc, pour le décliner, on a construit un projet assez particulier. Déjà, on a une cuisine par école. Parce que quand on veut parler de cuisine goûteuse, effectivement, si on veut tout cuisiner, eh ben, il y a des choses qui ne supportent pas le transport en liaison froide ou en liaison chaude. On parlait juste avant des frites et c'en est un très bel exemple. Mais même si vous prenez un plat de pâtes tout simple entre les pâtes qui sont servies dans les cuisines de Montsartou et cuites tout au long du service, ou des pâtes cuites 2, 3, 4 jours avant qui ont été mises en sauce pour ne pas coller et qui se sont gonflées et ramollies, ce n'est pas le même produit à l'arrivée. Donc, si on veut avoir une cuisine goûteuse pour les enfants et leur donner du coup envie de manger ces repas équilibrés qu'on leur donne, eh ben il faut que ça soit appétant, il faut qu'ils aient envie de les manger. Donc nous, on travaille des produits frais, bruts, de saison, cuisinés tout au long du service ou dans la matinée pour les plats en sauce et la préparation des entrées ou desserts. Mais voilà, un peu comme une cuisine de restaurant et qui part d'une cuisine de marché, puisque une autre particularité de notre cuisine, au-delà d'utiliser des produits frais et bruts, c'est qu'on est aussi notre propre producteur de légumes. Et on a la chance de cuisiner ces légumes que l'on ramasse rien que pour les enfants de Montsartou. Et que donc, par exemple, quand ils mangent une salade à midi, elle est ramassée le matin et elle reste croquante, agréable à manger, mais en plus avec tous ces nutriments préservés qui ne se sont pas perdus dans des journées de frigo et de conservation. Alors c'est une cuisine assez simple, hein, cuisine familiale assez simple, on ne fait pas de fioritures, de présentation, on ne fait pas de recettes extrêmement élaborées comme essayent de faire certains ou ils viennent faire, certaines collectivités aiment bien venir faire cuisiner les chefs 3 étoiles dans leur cuisine. Nous, c'est quelque chose qu'on fait pas. C'est vraiment une cuisine comme à la maison, en fait, mais dans une maison où on cuisine.
Et de la terre à l'assiette, il y a donc une traçabilité des ingrédients. On sait exactement d'où vient chaque ingrédient que l'on va retrouver au menu du jour.
Oui, au maximum. C'est-à-dire que, alors, bon, la traçabilité sur les légumes est extrêmement simple puisqu'ils passent de notre champ à notre cuisine et la cuisine la plus éloignée est à peine 3 kilomètres du champ. Sur les autres produits, on a effectivement une grande vigilance sur la traçabilité de nos produits et sur la zone de production. Nous, on a pris le principe qu'il fallait que l'on ait des produits alimentaires pour chaque catégorie qui viennent le plus près possible. Voilà, parce qu'on n'est pas dans un département très agricole, les Alpes-Maritimes, donc il faut pas rêver, tout ne viendra pas des Alpes-Maritimes. Mais par exemple, pour le bœuf, on a du bœuf qui vient des Bouches-du-Rhône, des bœufs bio qui viennent des Bouches-du-Rhône, d'un producteur. On a des volailles qui viennent d'Ardèche. Alors les fruits, c'est plus variable, hein, ça dépend la saison, ça dépend le producteur, mais on essaye, on sait toujours d'où viennent nos produits et notre fournisseur s'est engagé dans le marché public que l'on a avec lui à des distances d'approvisionnement. Il y a des filières d'approvisionnement que l'on valide avec lui. Donc voilà, on s'intéresse vraiment aussi au mode de production.
Donc les enfants ont la chance quand ils déjeunent à la cantine de profiter des bonnes effluves de plats préparés sur place. Est-ce qu'on voit qu'ils sont, ils et elles, contents de ce qu'ils ont sur le plateau?
Alors ça, c'est une excellente question, parce que c'est vrai que avoir la cuisine dans chaque école permet justement cette prise de conscience dans la matinée qu'un repas se prépare, peut-être des odeurs qui vont mettre en appétit, qui vont donner envie de manger, et aussi ça permet aux enfants de discuter chaque jour avec leur cuisinier et au cuisinier ou à la cuisinière de voir chaque jour les enfants qui mangent ces repas. Et cette relation humaine, pour moi, elle est extrêmement importante dans l'éducation à l'alimentation. Et effectivement, quand on a des cuisines centrales, c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire. Donc ça, c'est un point, à la fois ces odeurs qui vont mettre en appétit, mais cette relation humaine qui va exister sont des vecteurs de qualité pour moi et un vrai plus. Quand on interroge les enfants, parce qu'on fait une enquête tous les 3 ans assez sérieuse, hein, depuis 2013, et il n'y a que 7% des enfants qui disent qu'ils mangent trop de légumes. Et pourtant, ils mangent des légumes tous les jours. Et ils ne mangent que des légumes de saison. Et vous voyez que pour ça, moi, c'est un chiffre qui donne une vraie réussite de notre modèle de cuisine, parce que faire plaisir à des enfants avec des légumes, ben c'est un vrai challenge. Et quand on le réussit, c'est un vrai plaisir parce qu'on sait qu'on a gagné en éducation, à l'alimentation, un atout extraordinaire qui est la santé que peuvent apporter, l'intérêt nutritionnel et sur la santé que peuvent apporter les légumes. Et ces légumes, en plus, souvent, ils savent même d'où ils viennent, de quel champ. Ils connaissent les personnes qui les ont cultivées et ils les voient, ils les découvrent aussi sous la forme qu'ils ont dans les champs et à différents niveaux de leur croissance. Hein. Donc ça, c'est un point hyper important. Et tout comme ils cultivent eux-mêmes des légumes dans les jardins pédagogiques que l'on a, ils font des classes alimentation durable sur notre ferme municipale. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet, parce que faire manger que des légumes de saison, ça veut dire, entre autres, que l'hiver, on va manger des blettes, qui est un légume typique du pays du sud de la France, et particulièrement du pays niçois. Hein. Il y a beaucoup de recettes niçoises à partir de blettes, mais c'est un légume qui se perd hein, dans les menus quotidiens des familles. Il y a beaucoup moins de traditions culinaires. Et en fait, au début de la ferme municipale, on découvre toujours un nouveau projet. On avait planté un peu trop de blettes et pour pas gaspiller, ils mangeaient des blettes 2 fois par semaine. Vous imaginez bien que c'était un vrai challenge. Et quand on s'est rendu compte qu'il y allait avoir toutes ces blettes à mettre au repas, on a dit peut-être la meilleure façon de les sensibiliser, c'est de les amener récolter ces blettes. Donc voilà les enfants qui partent dans les champs. Couper les blettes, donc et créer quelque part une relation affective avec ces légumes, et ils ont livré ces blettes aux cuisiniers qui en demandant de trouver un peu de nouvelles recettes pour les blettes, pour pas manger la même recette 2 fois par semaine, et finalement d'avoir fait ça, ça a été un vrai révélateur sur cet accompagnement pédagogique, et parce que les blettes ont été mangées sans difficulté, et un gamin qui cultive, qui suit ses légumes, qui apprend à cuisiner les légumes, ben très facilement il se met à manger des légumes qui en plus étaient super bien cuisinés par nos équipes qui sont extrêmement engagées dans leur métier.
Et comment ce projet, ce modèle de restauration collective que vous avez réussi à déployer sur Mont-Sartoux, comment vous y êtes parvenu?
Je dirais de manière très simple. Hein. Alors des fois, on fait figure d'exception, et pourtant on a un projet extrêmement simple et extrêmement pragmatique. Moi, c'est ce que j'aime partager. Il faut juste un peu de volonté, de prise de conscience et de volonté. C'est-à-dire que nous, la première chose qui nous a fait réfléchir à la qualité de ce qu'on servait aux enfants dans les assiettes, c'est en 1998, lors de la crise de la vache folle, quand on nous a interdit de servir du bœuf dans les cantines, parce qu'on risquait de rendre gravement malades, parce que c'était une maladie létale, hein, les enfants, en leur donnant le bœuf. Et pourquoi? Parce qu'on avait nourri des herbivores avec des farines animales. Donc, nous, ça nous a vraiment beaucoup fait réfléchir, ça nous a beaucoup interpellés. Et on a pris immédiatement une décision, en une journée, hein, la circulaire est arrivée, et on a dit, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on a pu faire? On s'est mis à servir du bœuf bio aux enfants, dès 1998. puisque les bœufs bio étaient nourris au pâturage et à l'herbe, au foin, et surtout pas aux farines animales. Et on voit comment un mode de production soi-disant moderne peut faire des ravages sur la qualité alimentaire. Cette recherche de rentabilité a posé des problèmes, et donc le bio avait tout à fait une autre approche. Deuxième grande étape de notre projet, c'est en 2005, quand on a signé la charte des villes actives du plan national nutrition santé, qui prône, vous savez, 5 fruits et légumes par jour, moins de sel, moins de sucre, moins de graisse, tous ces repères nutritionnels qui sont très importants sur les enjeux de santé. Et nous, on a décidé d'essayer de les appliquer le mieux possible. Mais très vite, on s'est rendu compte que si les repères nutritionnels étaient assez intéressants, pour nous, des légumes en conserve, en surgelé ou en frais, n'avaient pas la même valeur. Et qu'il nous paraissait important de rajouter un volet qualitatif à cet équilibre nutritionnel, qualitatif sur l'origine et le mode de production des aliments que l'on servait. Et c'est pour ça qu'en 2008, au moment où le Grenelle de l'environnement prévoyait 20% de bio en restauration collective pour 2012, donc c'est assez rigolo parce que c'est le même objectif que la loi Egalim, et c'est toujours 20% comme s'il y avait un plafond de verre aux 20% de bio. Et nous, justement, on a dit, mais oui, de toute façon, le bio, c'est la solution pour l'enjeu santé, l'enjeu environnemental. Et si c'est la solution, pourquoi la viser à 20% et pas à 100%? Et on s'est donné ce challenge. Et on a dit, on va aller vers une cantine 100% bio le plus vite possible sans dépenser plus. Et en fait, d'avoir un objectif extrêmement ambitieux comme celui-là, eh ben, ça a déclenché dans toutes nos équipes, aussi bien élus que techniciens, l'innovation. L'innovation pour trouver les moyens d'atteindre cet objectif. Et en fait, on a passé au filtre de cet objectif d'une alimentation respectueuse de la santé et de l'environnement à partir de produits bruts, frais, de saison et bio, ben, toutes les pratiques qu'il fallait changer dans les actions quotidiennes que faisaient les agents de la commande, quels produits commander, comment conserver les produits, comment les cuisiner, comment les servir, dans quelle vaisselle les servir, comment nettoyer la cuisine, pour que toutes les actions quotidiennes des agents respectent le plus possible la santé. Et en fait, c'est une multitude de petites actions quotidiennes qui ont été modifiées, une succession de bonnes pratiques qui, du coup, créent un système très vertueux et en plus, avec une cuisine qui est goûteuse. La cantine de Montsartou a beau être 100% bio, à plus de 70% local, elle fait partie des cantines qui sont un petit peu en dessous de la moyenne nationale des coûts de revient du repas. Donc c'est le challenge, il est là aussi, c'est-à-dire qu'on l'a fait à coût extrêmement raisonnable.
Or, on entend souvent que le bio coûterait trop cher, plus cher en tout cas que la cuisine conventionnelle.
Il y a plusieurs manières d'appréhender le prix d'un produit. Il y a l'approche économique. Hein, voilà, j'ai 10 euros. Si j'achète un produit moins cher, j'en aurai plus. Si j'achète un produit bio plus cher, j'en aurai moins. D'un autre côté, on sait que beaucoup de cantines qui achètent des produits pas chers en jettent au moins un tiers. Donc, si on fait attention à son argent, l'intérêt, c'est plutôt essayer d'acheter des produits avec le même budget qui vont être de meilleure qualité et d'éviter de nourrir la poubelle en quelque part en gaspillant l'argent du contribuable. Donc, oui, nos produits bio qu'on achète sont plus chers. Par contre, avec 80% de diminution du gaspillage alimentaire, on a économisé 20 centimes par repas qui permettent de compenser ce surcoût d'achat d'aliments de qualité. On est actuellement à 40% de repas alternatifs à base de protéines végétales et d'œufs. On va passer en septembre à 50%. Un menu végétal, s'il est cuisiné maison, il revient deux fois moins cher qu'un menu avec de la viande ou du poisson. Donc, on a des leviers extrêmement puissants pour maîtriser nos coûts en mettant plutôt l'argent sur la qualité plutôt que sur des produits bas de gamme dont on jettera une grande partie de ce qu'on a acheté. Et dans tout ça, il y a des enjeux et il y a des stratégies qui permettent de faire des économies sur ce qui est possible et de mettre le prix raisonnable d'une alimentation de qualité qui fera du bien à la santé des enfants. 25% des gaz à effet de serre proviennent de la production et de la transformation de notre alimentation. Quand on a un quart de la solution du dérèglement climatique, eh ben, il faut changer la manière de produire notre alimentation.
Comment on pourrait essaimer à présent un modèle de restauration collective comme celui de Montsartou ?
On le fait, nous, en 4 ans et demi, là, on a essaimé auprès de 600 collectivités en France et en Europe. Moi, je crois beaucoup à l'essaimage et à la multiplication des projets et construire les alternatives. Montsartou a aussi créé, avec l'Université Côte d'Azur et l'association M plus Bio, un diplôme universitaire chef de projet alimentation durable qui forme des chefs de projet pour travailler dans les collectivités, justement à construire ces projets d'alimentation durable, dont un volet restauration scolaire. Mais on ne peut pas, dans nos collectivités, s'intéresser qu'à l'assiette de la cantine. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'intéresser à l'enjeu de production en amont, préserver des terres, aider les agriculteurs à s'installer, aider les agriculteurs à se transformer en agriculture biologique, éduquer nos habitants à de nouveaux repères nutritionnels, à une nouvelle manière de manger, à recuisiner, parce que c'est l'enjeu, il est là, c'est que on sait que pour manger sain, il faut arrêter les produits ultra transformés de l'industrie agroalimentaire, il faut plutôt cuisiner des produits frais et bruts. Donc on peut pas s'occuper que de cantine sans s'occuper de l'amont et sans s'occuper des autres habitants de notre commune qui mangent chaque jour. Et c'est bien veiller à cette accessibilité de chaque habitant et une alimentation de qualité et à préserver des espaces sur nos territoires, des terres agricoles pour produire et essayer de dialoguer avec les agriculteurs et les responsables agricoles, d'organismes agricoles, à aller vers des productions plus bio, vous avez compris que c'était mon credo, mais aussi plus diversifiées. L'agriculture s'est beaucoup spécialisée par région et c'est un peu cette approche d'agriculture intensive. Ben voilà, on a les zones à vin, les zones à céréales, les zones à élevage, et en fait après tous ces produits font de grandes distances et on perd le sens de ce qu'on mange, alors que si on recrée de la démocratie alimentaire sur nos territoires, qu'on accompagne une diversification de la production alimentaire et qu'on fait évoluer les systèmes d'échanges commerciaux de ces produits, ben on permettra à chacun de manger bio, local, de saison, avec des produits qui viennent de son territoire et qui, du coup, finalement, auront des effets très positifs sur la santé et l'environnement.
Et pour vous poser aussi la question, disons, à l'envers, donc quand on voit un modèle comme celui défendu par Montsartou et de plus en plus de communes aussi dans son sillage, finalement, quels sont aujourd'hui les freins que rencontrent les autres municipalités sur la question de la restauration scolaire, donc ces municipalités qui sont encore dans une cuisine conventionnelle et donc ces municipalités qui font encore face à des problématiques comme celle du gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qui les empêche, elles, aujourd'hui de se lancer sur le modèle vertueux que vous défendez ?
Alors, pour moi, rien ne les empêche de se lancer. Après, le changement sera plus ou moins long selon la situation de départ. Il faut être honnête. Montsartou, vous avez vu, on a pris conscience en 98, en 2005. En 2008, on a dit on passe 100% bio. En 2012, on y est arrivé. En 2017, on passait aux protéines végétales. Vous voyez qu'il y a un certain temps long. Moi, ce que je dis aux collectivités qui sont un peu frileux, je leur dis avant tout, soyez ambitieux dans votre objectif, parce que c'est ça qui générera l'énergie du changement. Mais après, n'essayez pas forcément de tout changer du jour au lendemain. Soyez progressifs, prenez vos priorités, choisissez vos priorités et construisez un projet cohérent, même si ça prend 3, 4, 5, 6 ans et qu'on progresse chaque année, c'est l'essentiel. Je dis que pour chaque ville, il y a un chemin. Pour certaines villes, il sera peut-être un peu plus long. Mais ce qu'il faut, c'est commencer, et commencer en étant ambitieux, et essayer d'accélérer en prenant justement, en bénéficiant de l'expérience d'autres collectivités qui ont su déjà construire certaines solutions.
Et dans tout ça, et Gilles Perrol, ce sera ma dernière question pour vous, quel est le rôle de l'État ? L'État devrait-il apporter davantage son soutien aux communes, en notamment en octroyant plus de moyens financiers ?
Alors, actuellement, oui, moi je suis pas des communes qui revendiquent 20 centimes, 30 centimes, 40 centimes par repas pour passer au bio. Pour moi, ça c'est pas une bonne solution parce qu'on a vu qu'on va faire des économies. Par contre, moi, ce que je demande à l'État, c'est de laisser la capacité financière aux villes de s'administrer librement. Quand à Montsartou, notre dotation globale de fonctionnement, qui est donc la participation de l'État à notre budget, passe de 1,3 million en 2013 à 700 000 euros en 2017 à zéro en 2022, on voit qu'on perd beaucoup de capacité financière et donc d'autonomie de décision. Quand la taxe d'habitation nous est retirée et remboursée à l'euro près pour le moment, de toute façon, on perd déjà la dynamique du taux de la taxe d'habitation qui pouvait être une variable de nos recettes. Quand j'entends qu'on annonce la fin des taxes liées à l'économie qui va aux agglomérations, c'est le même point. Donc, on dirait que l'État cherche à asphyxier financièrement les collectivités. Et d'un autre côté, il fait des lois comme Egalim qui leur donnent des objectifs plus ambitieux. Donc, il y a un anachronisme que je ne comprends pas. Et ça date de plusieurs gouvernements, hein. Donc vous voyez que c'est aussi bien le gouvernement précédent que celui d'avant qui était de gauche. Et donc gauche et droite et centre font un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils abandonnent les collectivités qui sont pourtant le maillon le plus proche des habitants et le plus en capacité, le plus agile pour changer les politiques publiques. Donc oui, des moyens financiers de l'État, on en a besoin. Un autre exemple sur les moyens financiers de l'État, c'est-à-dire qu'au mois de mars dernier, devant l'augmentation actuelle des prix de l'alimentation, l'État a demandé aux collectivités d'accepter de payer plus cher l'alimentation ou les repas qu'ils achetaient aux sociétés de restauration privée. Et ils ont demandé aux seules communes de faire l'effort, même pas aux entreprises et encore moins à l'État. Donc vous voyez que c'est rendre quand même les choses extrêmement difficiles pour les élus. Et du coup, ça peut décourager certains élus à se lancer dans des restaurations scolaires plus ambitieuses parce qu'ils sont extrêmement inquiets et stressés par l'avenir et la capacité financière de leur collectivité, de l'équilibre de leur budget.
Pour prolonger la discussion sur l'importance de l'éducation alimentaire, n'hésitez pas à écouter ou réécouter l'épisode 127. Et si l'école pouvait lutter contre la fracture alimentaire ? Enregistré avec Camille Labreau, fondatrice de l'École Comestible, une association qui entend faire entrer l'éducation alimentaire dans les programmes scolaires. Cette rencontre et cette discussion avec Camille Labreau ont été très marquantes pour moi, puisque j'ai depuis lancé l'antenne provençale de l'École Comestible avec Stéphanie Cross et Lison Postel. En Ile-de-France comme en Provence, n'hésitez donc pas à contacter l'École Comestible si vous souhaitez donner de votre temps sur des ateliers culinaires à l'école. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Merci à Gilles Perrol d'avoir accepté de parler de cantine scolaire avec moi. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux.